Ça s'appelle Au détour d'une rencontre, c'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Nous rencontrons Charlotte Frigou de l'association Au goût du jour. Donc, peux-tu présenter l'association ?
Alors, l'association Au goût du jour, c'est une association qui est née il y a 16 ans à Quimper. L'idée venait de trois ingénieurs agroalimentaires qui se posaient des questions sur comment informer leur entourage sur le contenu de leurs assiettes. Et donc, du coup, ils ont créé cette association qui a pour enjeu de faire évoluer les comportements alimentaires des personnes vers un mieux manger. Et pour cela, on s'est doté de plusieurs missions. On a notre mission principale qui est une mission de sensibilisation qui s'adresse à tous les publics. Donc on sensibilise les enfants dans les établissements scolaires, les adultes dans leur entreprise ou lors d'événements. On a une mission de formation professionnelle et d'accompagnement. Donc là, ça s'adresse plutôt aux professionnels, notamment de la restauration scolaire, les animateurs de temps périscolaire également. Et on a également une mission d'événementiel. Voilà, donc on est 13 salariés dans l'association aujourd'hui. Et on a trois antennes, une à Quimper, qui est l'antenne historique, une à Rennes et une à Brest, où je suis basée. Alors moi, en fait, de formation, je suis diététicienne pendant mon parcours d'études, je me suis vite rendu compte que ce que je voulais faire au quotidien, c'était plutôt faire de la prévention, arriver en amont des problèmes que peuvent avoir des personnes en lien avec leur alimentation. Donc très rapidement, j'ai même initié des petits ateliers, moi de mon côté, dans le cadre de stages, etc. Et donc en fait, j'ai rencontré l'association dans mon parcours scolaire. J'ai fait une licence professionnelle aliment santé à Quimper. Et à l'issue de mon stage, vu que ça s'est bien passé et que ils avaient une volonté d'agrandir la structure et surtout d'avoir un profil de diététicienne comme le mien, j'ai pu enchaîner avec un premier contrat. À l'époque, dans l'association, il n'y avait pas mon profil. En fait, il n'y avait pas de diététicienne ni de diététicien. Eux, ils étaient ingénieurs agroalimentaires. Il y avait un biologiste aussi qui était dans l'asso, mais ils n'avaient pas le profil de nutrition. Donc, ça permettait de compléter les compétences de l'association. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a tous des compétences très différentes et très complémentaires sur l'alimentation. Puisque nous, en fait, à l'association, on parle de toutes les thématiques de l'alimentation. On ne segmente pas l'alimentation, on parle à la fois de nutrition, mais aussi de patrimoine, de métier, de lien avec l'environnement. Et l'idée, c'est vraiment de prendre le sujet alimentaire dans sa globalité.
Tout ça, c'est ce que tu mets dans le mieux manger ?
Et tout ça, c'est ce que je mets dans le mieux manger, ouais.
Voilà.
Ouais, ouais. Donc, c'est notre définition du mieux manger, c'est du bien manger. C'est bien manger pour soi, donc ça passe par évidemment la santé, mais aussi le plaisir. On tire un point d'honneur à prendre plaisir à bien manger, parce que voilà, ça fait partie de notre patrimoine. Donc voilà, ça enchaîne aussi avec ce volet-là. Et puis surtout, avoir connaissance et conscience que ce qu'on met dans notre assiette, ça a un impact évidemment sur nous, mais aussi sur les autres. Sur les autres via l'économie, forcément ça a un impact si je mange une carotte du maraîcher du coin plutôt qu'une carotte d'ailleurs dans le monde. Ça a un impact sur l'environnement par rapport au transport. Donc il y a toutes ces notions-là, on essaie de les partager à tout à chacun pour que chacun puisse faire ses choix et développer son esprit critique sur ce qu'il met dans son assiette. Parce que ces dernières années, on s'est beaucoup détaché de ce qu'il y a dans notre assiette. Et pourtant, a priori, on mange trois fois par jour. Donc c'est quand même hyper important pour soi et pour les autres. Au creux, sous côte, au chien d'hiver, je viens manger, dormir. La société a évolué, il y a eu une recrudescence de la productivité et tout ça a fait que on a moins cuisiné à la maison, on a plus acheté transformé et à l'époque c'était vu comme une révolution de pouvoir consommer ce type de produit. Et tout ça, ça a été très rapide et parfois avec pas assez de recul. À la fois, les industriels ont fait des choses parfois pas dans le bon sens et ils reviennent en arrière. Et le consommateur, il s'est laissé guider et du coup, un peu trop et a oublié de penser aussi, pas faire que manger, mais manger et penser. Nous, on n'est pas du tout moralisateurs, on n'est pas militants. Donc, on diffuse de l'information et on voit bien que les consommateurs, ils en ont besoin d'informations. Aujourd'hui, on est en 2022, on a accès à toutes les informations qu'on souhaite, mais en fait, il y en a trop et on s'y perd. Et donc, nous, on est là pour essayer de donner des faits scientifiques, des informations les plus neutres possibles pour après faire ses propres choix.
Est-ce qu'il y a une bonne alimentation ou est-ce qu'il y a plusieurs?
Non, en effet, comme tu le dis, on est tous différents et il faut aussi s'écouter. On n'a pas tous les mêmes besoins. Si on est grand, petit, on fait du sport ou pas, si on habite à Marseille ou à Dunkerque, toutes ces raisons font qu'on ne va pas manger de la même façon et c'est bien. Et surtout, non, la réponse, c'est qu'il n'y a pas une solution, sinon ça se saurait. Et surtout, déculpabiliser face à l'alimentation, c'est hyper important, parce que ça peut être source de stress pour plein de familles, de se dire « Oh là là, mais aujourd'hui, on a mangé que 3 fruits et légumes et pas 5, et c'est horrible. » Enfin, voilà, parce que parfois, il y a des messages qui sont des messages intéressants, parce que c'est tendre vers, mais il ne faut pas se focaliser sur un équilibre alimentaire. Par exemple, ça se fait sur une semaine, un mois, ça ne se fait pas sur une journée. Donc voilà, c'est beaucoup de bon sens aussi, hein, l'alimentation, et surtout l'écoute de soi, quoi. On voit bien, nous, on va dans des établissements scolaires, on leur demande combien de fruits et légumes il faut manger, ils savent que c'est 5. Par contre, ils ne savent pas à quoi ça correspond. Est-ce que si je mange 5 framboises, ça marche? La réponse est non, mais ça, ils ne le savent pas. Donc en fait, on s'est rendu compte que des messages comme celui-ci n'étaient pas forcément adaptés et compris par tous. Et parfois, avaient l'effet inverse de justement culpabiliser les mères de famille qui n'arrivaient pas à mettre 5 fruits et légumes différents dans la journée, dans l'assiette de leurs enfants, quoi.
Est-ce qu'il y a une difficulté d'accession au bien manger en fonction des revenus, par exemple?
Oui, bien sûr, la question du prix est au cœur du sujet, et d'autant plus aujourd'hui. Le bien manger, oui, peut coûter un peu plus cher. En fait, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on va mettre dans l'assiette. La tendance générale, que ce soit nutritionnelle ou environnementale, dit qu'il faut réduire sa consommation de viande, par exemple. Donc forcément, si on mange par exemple de la viande à chaque repas et qu'on veut, on veut changer ses habitudes alimentaires et que du coup on veut de la viande locale, pourquoi pas bio, etc., forcément son budget va tripler, quadrupler, donc c'est pas possible. Donc forcément, changer ses habitudes alimentaires si on veut mieux manger, parfois ça nécessite aussi de manger différemment. L'intérêt de manger de la viande, c'est aussi au-delà du plaisir gustatif, ça va être de trouver des protéines. Et des protéines, on peut en trouver ailleurs que dans la viande, notamment dans les légumineuses, dans des produits laitiers. Enfin voilà, il y a plusieurs sources. Et donc forcément, on va rebasculer vers ces sources-là. Donc ça, c'est une façon de basculer, on va dire, basculer son régime alimentaire et pour arriver à la balance du budget. Et il y a certains produits qui coûtent beaucoup plus cher, par exemple en local, et d'autres pas, en fait. Donc notre conseil en général, quand les gens ont vraiment une envie de faire bouger les lignes de leur consommation et qui partent entre guillemets de bas, c'est d'y aller au fur et à mesure, quoi. C'est pas de tout changer du jour au lendemain et de commencer par tel ou tel produit et puis trouver ses habitudes de lieu d'achat aussi, parce que l'idée, c'est pas d'aller dans 15 lieux différents pour faire ses courses. C'est pas tenable d'un point de vue organisationnel, et puis c'est pas logique d'un point de vue environnemental, parce que si on prend sa voiture pour faire 100 km à la ronde pour aller chercher tous ces produits, c'est pas efficient.
On a souvent des conseils sur comment bien manger, sur c'est quoi un plat équilibré, et ainsi de suite. Et comment on apprend dans notre corps et dans notre façon de ressentir les choses qu'un plat est bon pour nous, qu'un plat est équilibré, en dehors de tout ce qui est normatif aussi, en disant, voilà, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, telle quantité de fibres, telle quantité de féculents, et ainsi de suite. Finalement, comment on ressent ça dans son corps, comment on apprend à ressentir ça dans son corps, plutôt qu'à utiliser des chiffres et des réglementations.
Alors moi, je n'ai pas la prétention d'expliquer aux gens comment écouter leur corps, mais en tout cas, ces bases de connaissances sont quand même, peuvent rassurer et appuyer la manière dont ils vont équilibrer leur assiette. Après, écouter son corps, c'est juste manger quand on a faim déjà. Si il est midi et que j'ai pas faim, je mange pas, c'est pas grave, et je mange à 13h ou je mange pas d'ailleurs, il faut vraiment s'écouter et surtout se dire que si on a une envie de kiwi, je mange 3 kiwis, très bien, et si j'ai une envie de chocolat, je mange du chocolat. Après, c'est sûr que si je mange une tablette de chocolat tous les jours, il n'y a pas besoin d'être diététicienne pour savoir que c'est pas adapté à un régime alimentaire équilibré. Mais si ça arrive une fois, non, c'est pas grave, quoi. Ça va bien se passer. Le risque, c'est une crise de foie. Je pense que les envies, elles ont plusieurs sources, en fait. Et il y a un volet très psychologique en lien avec l'alimentation. Et ça, c'est pas du ressort de goût du jour, clairement. Mais les envies aussi, elles viennent par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on sait. Si pendant toute notre vie on a mangé du steak frites et que la seule fois on a mangé des légumes, c'était pas bon, on n'a pas pris plaisir, c'est sûr que nos envies elles vont jamais se diriger vers des légumes. Donc c'est réapprendre aussi de se faire plaisir avec une salade de choux ou autre. Mais je pense qu'il y a ce côté là, il faut se créer des bons souvenirs avec les bons aliments aussi. Si c'est la punition de manger des légumes, c'est sûr qu'on n'aura jamais une envie de manger des légumes.
Du coup, il y a quand même un aspect émotionnel, puisque tu parles de se créer des bons souvenirs. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le bon mot émotionnel, mais en tout cas sensitif, qui n'est pas que lié au goût, mais qui est lié à l'instant.
Bien sûr, c'est clair que... on raconte parfois cette histoire-là justement pour aussi rassurer les agents qui accompagnent les enfants sur le temps du midi, parce que par exemple l'histoire d'une petite fille qui va chez sa grand-mère et qui mange sa soupe et qui la trouve super bonne, et après elle retourne chez sa maman et sa maman lui fait de la soupe et elle en veut pas, quoi. Donc la maman elle comprend pas, elle se dit pourtant elle en a mangé chez ma propre maman, elle l'a mangée. Donc elle demande la recette à la grand-mère de cette soupe, et donc elle refait, mais elle n'en veut toujours pas. Et en fait, ce qu'elle aime, la petite fille aussi, c'est la soupe chez sa grand-mère. Donc il y a aussi le moment à laquelle on mange l'aliment, et c'est pour ça que le contexte dans lequel on mange, il est hyper important. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à la cantine, parce que une cantine, ça peut être très bruyant, ça peut être une source de stress pour un enfant. On peut lui dire de manger vite, et chaque enfant est différent. Il y en a à qui ça dérange pas du tout, et d'autres qui ont besoin de prendre le temps. Donc le contexte dans lequel on mange est hyper important, et forcément quand on parle d'alimentation, on parle d'émotions et de souvenirs. C'est la Madeleine de Proust en est un bon exemple. Donc oui, il y a de l'émotion là-dedans.
Quelle est la motivation première et quelle est la motivation actuelle qui t'ont amené à travailler sur cette thématique ?
À la base, en fait, l'alimentation, moi, j'ai toujours baigné dedans parce que je suis issue d'une famille où on cuisine. Mes parents ont eu un restaurant, et l'alimentation, ça a toujours été au cœur de notre quotidien. Donc ça a été assez logique d'aller vers ce type de domaine, et rapidement le côté contact avec les habitants, les citoyens, les consommateurs, de les aider, de les accompagner sur le bien manger, ça me parlait. Et puis forcément ça évolue dans le bon sens du terme, ça se renforce en tout cas au travers de ma carrière. C'est que aujourd'hui je trouve que c'est un un point qui est indispensable. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. Manger, c'est important pour soi, pour la planète, pour, c'est voter, c'est vraiment un engagement de manger. Et justement, j'ai bien vu qu'on s'était trop détaché de son alimentation, comme je disais tout à l'heure. Et moi, je veux essayer de, à travers ma petite participation dans l'asso, à aider ça de façon simple et fluide, et pas rentrer trop dans du militantisme, parce que le militantisme, alors je suis pas du tout contre, hein, mais ça suffit pas, parce que le militantisme peut être trop fermé parfois sur ceux qui sont convaincus par leurs paroles, et c'est dur d'emmener les autres, et les autres ils sont nombreux et majoritaires parfois, et du coup pour amener tout le monde comme ça dans le même sens sans culpabiliser, le biais qu'on propose à travers les actions de l'association, ça me paraît le plus simple et sain. Je n'ai pas le temps.
Parler de sensibilisation, donc en fait, quelles sont vos actions de sensibilisation ?
Alors, c'est assez divers, comme je le disais, sur toutes les thématiques de l'alimentation. Donc, à destination des scolaires, on fait pas mal un système de cycles d'ateliers, plus que des ateliers individuels, parce que on estime que ça permet vraiment de balayer justement toutes les thématiques de l'alimentation. Donc, c'est vrai qu'on a un cycle où on a 4 ateliers de 2 heures dans lesquels on parle éducation au goût, éveil des 5 sens, parce que c'est la base. On parle d'équilibre alimentaire, on parle de lien entre alimentation et dérèglement climatique. Et on fait un focus sur le gaspillage alimentaire. Et à l'issue de ces 4 ateliers-là, on en propose un 5e, qui est là un atelier de co-construction avec les élèves, sur maintenant que vous avez cette base de connaissances de ce que c'est mieux manger, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour mieux manger au sein de votre foyer, à la maison, parce que ils ont leur mot à dire aussi sur ce qu'ils mangent à la maison. Et puis qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place au sein de l'établissement scolaire. Donc que ce soit à la cantine ou pas, ça peut être aussi sur on pourrait sensibiliser les autres élèves, parce qu'on est en CM2 et on pourrait faire des petits ateliers pour les plus petits, ou ça peut être, on pourrait mettre en place un jardin pédagogique, on a de l'espace, on pourrait aider au compostage, on pourrait aider à réduire le gaspillage au sein de la cantine en faisant des pesées, enfin voilà. Et c'est eux qui réfléchissent à ces actions-là, et puis on essaie de les aiguiller, leur dire ce qui est possible ou pas, les actions sur lesquelles ils peuvent se positionner seuls ou avec des adultes ou avec l'équipe de cuisine, enfin voilà. Donc c'est vraiment s'approprier aussi ce sujet, parce que c'est des consommateurs de demain et que ça commence dès aujourd'hui, on n'a plus trop le temps d'attendre sur ces thématiques là donc ouais, ça va être notre gros travail auprès des établissements scolaires, ça va être ce format là après on propose des ateliers ponctuels où on va uniquement parler du patrimoine, on va uniquement parler du volet scientifique de l'alimentation aussi. Enfin, toutes ces thématiques, on les propose à de 3 à 83 ans.
Tu parlais de la sensibilisation auprès des scolaires, mais tu disais qu'il y avait aussi les adultes.
Mmh. Alors, les adultes, c'est toujours plus compliqué à les sensibiliser, puisque ils ont 2 cadres, on va dire. Ils ont le cadre professionnel et puis le cadre de loisir. Dans le cadre professionnel, on va parfois proposer des ateliers au sein des entreprises, souvent autour de la thématique de la pause déjeuner, qui est souvent problématique quand on travaille. On mange sur le pouce, on mange mal, on mange devant son écran, etc. Donc on a déployé un atelier sur cette thématique-là qu'on fait au sein des entreprises. On propose aussi des accompagnements, là vraiment, des entreprises sur comment faire évoluer les comportements alimentaires de leurs salariés. Et là, on fait carrément un audit de la salle de pause, de l'offre de restauration, et puis on fait des préconisations à la suite de cet audit sur, là, typiquement, il y a un distributeur de confiserie, mais par contre, il n'y a même pas de quoi se faire réchauffer son repas du midi, ça pose problème. L'ambiance de la salle de pause, etc. Donc on travaille sur cette thématique-là. Et après, sur le volet loisirs, bah, on essaie d'intervenir dans des événements, que ce soit en lien avec l'alimentation ou pas. Ce qui est intéressant, c'est souvent de nous trouver dans des lieux où on bah, on parlait pas forcément d'alimentation ou pas forcément de bonne alimentation. Et ça nous permet de toucher ce qu'on appelle du non-public, c'est-à-dire du public qui avait pas, qui est pas forcément sensibilisé de base sur cette thématique-là. C'est vrai qu'aller dans un salon, par exemple, du bio, c'est intéressant, mais on voit des gens qui sont déjà un peu convaincus par la thématique. Aller à un salon de la gastronomie, par exemple, bah, on touche des gens, des épicuriens, mais pas forcément des gens qui sont sensibilisés sur le mieux manger dans le sens santé et environnement. On travaille, on va dire, l'équipe elle est mobilisée sur deux gros projets en même temps. C'est le festival de Cornouailles, comme je disais, et puis la maison de l'alimentation itinérante qui est un nouveau projet de l'association. Mais sinon, après, nous on a tous nos projets, nos spécialités. En effet, on a beaucoup de projets. On va à la fois, par exemple, on a un projet avec la région Bretagne où on accompagne 15 lycées sur la région sur la diminution du gaspillage alimentaire. Et donc ça, toute l'équipe n'est pas mobilisée, mais on a une partie, une équipe projet là-dessus. On a un autre projet très différent qui va être de former les bénévoles des Restos du Cœur à animer des ateliers cuisine. Et ça se fait partout en France. Donc ça, c'est une autre équipe qui gère ça. Enfin voilà, donc on travaille beaucoup en mode projet. Et après, bah, le choix des personnes qui travaillent sur les projets bah, se font en fonction de l'affinité avec le projet, des compétences et aussi du temps parce que bah, on est très salariés mais on chôme pas.
Tu parles d'une maison de l'alimentation itinérante. Qu'est-ce que c'est ?
Alors c'est un projet qui était dans les cartons et dans les têtes d'Au goût du jour depuis le début. C'était à la base le projet c'était avant de créer l'asso, c'était de créer un lieu physique pour accueillir le public pour parler de ces questions-là. Et ça ne s'est pas fait sous cette manière-là. Mais on a toujours gardé l'esprit de maison de l'alimentation. Et à l'issue du premier confinement, l'équipe s'est réunie pour réfléchir à un nouveau projet pour rebondir de cette période. Et donc est remis sur la table cette question de maison de l'alimentation. Donc on a fait une étude de préfiguration qui nous a permis de sortir de terre ce projet de maison de l'alimentation itinérante, donc, qui a pour objectif en fait, de se positionner sur 10 territoires bretons. En fait, on fait 10 étapes. Une étape, en fait, c'est un mois de présence sur le territoire, avec une maison physique, puisque c'est une tiny house qu'on a construite dans laquelle on peut accueillir le public pour soit les sensibiliser, soit prendre aussi leur ressenti sur quels sont les freins qu'ils rencontrent pour mieux manger sur leur territoire, pour leur faire remonter à la collectivité. Donc c'est vraiment un échange. Et puis c'est aussi une vitrine éphémère pour tous les acteurs du territoire qui travaillent sur le bien manger. Et au-delà de cette maison, qui est ouverte au public sur ce mois, on déploie un programme d'action sur tout le territoire qui est co-construit avec la collectivité qui nous accueille. Et là, par exemple, en ce moment, donc, on est sur Brest Métropole, ça tombe bien. On est présent 6 semaines, 3 semaines à Plougastel-Daoulas et 3 semaines à Plouzané. Ça, c'est pour le point névralgique avec la maison. Et après, on a déployé tout un tas d'actions sur toutes les communes du territoire. Et aussi, on a recensé toutes les actions qui étaient menées par les autres associations, les autres structures. Et c'est vrai que, pour le coup, Brest Métropole est vraiment un territoire qui est riche en associations et qui est vraiment actif sur ces questions alimentaires. Et donc là, par exemple, sur ces 6 semaines, on a recensé une centaine d'actions sur la thématique. Donc ça montre bien qu'il y a un intérêt fort, que ce soit du territoire ou des habitants. Donc voilà, donc ce projet-là, bah, voilà, c'est la troisième étape. On a été à Dinan et à Quimper avant. Et on va continuer à aller sur d'autres territoires. Voilà.
Et ça, il y a l'itinéraire sur votre site internet.
Alors l'itinéraire, il se construit au fur et à mesure. Il y aura une prochaine date qui va arriver bientôt, mais elle est pas encore, on ne communique pas encore dessus. parce que c'est un gros travail. En fait, chaque étape est vraiment, même s'il y a, un socle commun, la présence de la maison, etc. Mais après, il y a vraiment une co-construction avec la collectivité qui nous accueille, parce qu'on ne veut pas arriver avec un projet tout cuit et qui serait un peu hors sol par rapport au territoire. Et du coup, ça prend un petit peu de temps de recenser les actions qui existent déjà pour ne pas... Pour pas venir avec des actions qui sont déjà mises en place et au contraire complétées.
Ça s'appelle Au détour d'une rencontre, c'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Ma route est la même. Je n'ai